voudrais proposer aux enfants des écoles du dimanche, ils vont pouvoir rejoindre leur classe gentiment. Et puis aussi inviter Jacques à bien vouloir prendre la place pour qu'on l'écoute. C'est lui qui nous partage ce matin la parole de Dieu.
C'est une grande joie d'être parmi vous. C'est normal que je dise ça, vous attendez à ce que je le dise. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup comment je peux vraiment participer et communier avec vous de la façon dont vous exaltez le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, on a des images fantastiques de louanges par les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, par des myriades d'anges. Mais vous savez, tous ces gens sont parfaits. Dieu prend davantage de plaisir à vous voir, à nous voir le louer, parce que nous sommes des êtres faibles, pécheurs. On a peut-être mal dormi, on a mal au ventre, on se sent pas bien, on s'est forcé pour venir, et malgré tout, on essaye de louer le Seigneur le mieux qu'on puisse. Ça, ça a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. C'était pas prévu. Au mois de septembre, j'ai fini la série de 1300 émissions qui couvre l'ensemble des Écritures. Et le dernier livre, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, bien entendu, parle des temps de la fin du monde, la fin de tout ce que nous connaissons. En Californie, il y a un homme qui s'appelle Camping. C'est un évangélique très puissant qui possède 140 ou 150 stations de radio à travers les États-Unis, qui a annoncé l'enlèvement de l'Église et la fin du monde pour le 21 mai 2011. Vous êtes tous là. Il a revu ses calculs et il a décidé qu'il s'était trompé dans sa numérologie, et donc maintenant c'est pour le 21 octobre. Le calendrier aztèque, des Indiens Yopis et d'autres prévoient quelque chose pour le 21 décembre 2012. Il y a une fin de quelque chose. Alors, à la lumière de ce que je viens justement de vous dire, le prophète Daniel, alors là c'est déjà plus solide, le prophète Daniel écrit que dans une de ses visions, il a vu surgir une quatrième bête effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait aussi 10 cornes. Ces 10 cornes représentent 10 rois. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit « Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et, vous l'avez deviné, 10 cornes ». Ici, vous êtes un pied sur la Suisse, un pied sur la France. Vous êtes bien placé pour vous rendre compte que les 17 pays de la zone euro, ils savent pas trop où ils en sont. Le problème, c'est qu'ils sont 17. Alors, quand j'ai fait l'Apocalypse et que je regarde les prophéties, moi aussi, j'aimerais bien connaître la fin, mais je ne m'appelle pas Nostradamus ni Camping. Donc, je fais très attention. Mais je me suis dit quand même, les 17 pays de l'euro, est-ce qu'il est possible qu'il y en a 7 qui déménagent et qu'il en reste 10? J'en sais rien. J'en sais rien, mais je me suis dit, c'est peut-être une possibilité. De toute façon, un jour, les événements de la fin vont se mettre en place et conduiront l'humanité à la catastrophe. Ça, nous le savons. La seule solution au problème de l'homme est l'instauration d'une monarchie absolue avec à sa tête un roi bienveillant qui impose la paix et la justice au fil de l'épée. Il n'y a pas d'autre solution. Mais la venue de ce roi glorieux ne va pas se faire facilement. Il y aura l'opposition farouche des cohortes démoniaques et des hommes impies. Pendant les 7 années de tribulation qui précéderont le retour du Seigneur, auront lieu 3 séries d'intenses jugements, les sceaux, les trompettes et les coupes, qui auront pour but d'anéantir tous les pécheurs qui refusent de se soumettre à Dieu. C'est des révisions. Et de déloger l'empire du mal instauré sur terre par Satan, appelé le dragon dans l'Apocalypse, l'Antichrist, appelé la première bête, et le faux prophète, appelé la seconde bête. Voilà, maintenant que vous savez tout, nous allons faire un petit survol d'une portion de la fin de l'Apocalypse, un livre qui fait peur. Ce que je vais vous dire, vous pouvez l'écouter à partir du mois de décembre de cette année. Dans le chapitre 19, si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir, je vais utiliser la version du Semeur. Alors, ce sera un peu différent si vous avez la version seconde ou une autre. Dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, ce passage s'ouvre sur une nouvelle fenêtre de la vision de l'apôtre Jean. Il dit là-dessus, « Je vis le ciel ouvert », verset 11, chapitre 19, verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Verset 19, « Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. » Il s'agit ici de la fameuse bataille d'Armageddon. Satan, le dragon, a rassemblé ses armées pour combattre le cavalier, le Seigneur de gloire, qui est venu, qui descend du ciel, et pour l'empêcher d'établir son royaume sur terre. Quelle folie! Qu'est-ce que Satan pense donc accomplir? Quant aux chefs militaires rassemblés, ce ne sont que des marionnettes entre les mains du diable. Ils n'ont aucune idée de la véritable raison de leur rassemblement. Ils croient être venus à cette grande kermesse pour en découdre avec d'autres nations. En effet, c'est le prophète Daniel qui mentionne des guerres mondiales entre l'Antichrist et le roi du Midi, auquel se joindra le roi du Nord. Ça fait rien si vous êtes perdu. Mais les combats les plus sanglants auront lieu en Palestine, et tout à coup, c'est fini. Verset 20. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ses miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, c'était le verset 20 du chapitre 19. La défaite de la bête et du faux prophète précède le jugement de leur maître, le dragon, c'est-à-dire Satan. Ces deux chefs, l'un politique et l'autre religieux, ont l'honneur d'être les premiers à se voir jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est un lieu d'incarcération et de jugement permanent, l'ultime destination de tous ceux qui ne sont pas rachetés. C'est ici, dans le chapitre 19, qui est mentionné la première fois dans les Écritures, cet endroit épouvantable. Verset 21. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Tous ceux venus combattre se massacrent entre eux, en Palestine en particulier, mais dans le monde entier, puisque c'est une guerre mondiale. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui est responsable de leur mort et de l'ignominie qui suit. Un festin gargantuesque, avec le bar ouvert, où les oiseaux de proie sont conviés à se repaître de chair et à s'enivrer de sang. Le livre de l'Apocalypse est très violent. Très, très violent. C'est pas de ma faute, c'est Jean qui l'a écrit. Au chapitre 20, maintenant, nous passons de l'Apocalypse. Je vous dis, je fais un survol, mais à partir de maintenant, je vais aller un peu plus doucement. Le chapitre 20 de l'Apocalypse s'ouvre donc sur une page fantasmagorique qui raconte l'instauration du millénium, le royaume de 1000 ans de Jésus-Christ. Ce n'est pas que l'homme n'a pas essayé de créer un monde meilleur, nous le savons tous, car sans le savoir, il aspire au paradis perdu. Mais, comme nous le savons tous également, il a essuyé échec sur échec. Dans sa célèbre composition musicale « Imagine », John Lennon, l'un des Beatles, a mis en vers le soupir de son propre cœur. Il chante « Imagine qu'il n'y a pas de paradis, c'est facile si tu essayes, pas d'enfer sous tes pieds ». On peut en effet tout imaginer. Imaginez un monde sans injustice, dominé par le droit et la vérité, la bonté, un monde où tout le monde est traité avec respect, où toute la vérité, rien que la vérité, gère toutes les institutions, les échanges, le commerce, l'éducation, le gouvernement et les relations personnelles. Imaginez un monde où règne une paix totale, où tous les hommes sont heureux et en bonne santé, au point de vivre plusieurs siècles. Imagine un monde sans aucun cataclysme naturel, où seule une eau limpide et pure coule dans tous les cours d'eau, où le loup et l'agneau cohabitent et se délectent ensemble de l'herbe des champs. Imagine un monde dirigé par un souverain parfait et glorieux qui ne veut que le bien de ses sujets. C'est un rêve, une utopie, un fantasme impossible, et pourtant, c'est la description du paradis retrouvé que le Seigneur Jésus-Christ établira sur terre. Son règne à venir est le point d'orgue de l'histoire de la rédemption et l'exaucement depuis toujours du profond soupir de tous les êtres humains. Voilà ce que nous décrit le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 20, nous lisons versets 1 et 2. « Puis je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan, il l'enchaîna pour 1000 ans. J'en vois donc apparaître un ange qui descend afin de ligoter le diable. Son incarcération et avec lui ses hordes de démons changera carrément et radicalement la dynamique du monde. Ce qui fait que Jésus pourra régner sans être constamment en butte à des mauvais esprits comme lors de sa première venue. Si vous lisez les évangiles, vous voyez qu'il était constamment, presque constamment en train de chasser des esprits impurs. Il avait les pharisiens sur le dos, tous les hommes religieux, les romains. Il faut bien voir que derrière tous ces personnages, il y avait des démons. Aujourd'hui même, parce que là je fais un peu de ce qui s'appelle la démonologie, il faut bien voir qu'aujourd'hui les démons sont partout. Et en particulier dans les chancelleries du monde. C'est eux qui tirent les ficelles. Ils ne seront plus là. Ils seront tous ligotés par un ange puissant. Ils seront enfermés dans l'abîme. Le mot traduit par abîme, nous sommes dans le chapitre 20. Abyssos est utilisé 7 fois dans l'Apocalypse. C'est une prison temporaire pour les démons les plus vils et les plus méchants. On a plusieurs références. Certains ont été relâchés lors du jugement de la 5e trompette. Je vous ai dit, il y avait le jugement des sceaux, des trompettes. Ils ont été relâchés lors du jugement de la 5e trompette et Satan ainsi que les mauvais esprits qui aujourd'hui sont libres pourront sortir de l'abîme où ils seront enfermés pendant 1000 ans à la fin du règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Mais tous les autres démons seront transférés directement de ce lieu d'incarcération à l'étang de feu, la destination finale de toutes les créatures rebelles. Et de ce lieu maudit, personne n'en sortira jamais. L'ange saisit donc Satan, qui est appelé dragon, serpent ancien et diable, dans ce passage, les mêmes titres qui lui ont déjà été donnés quand il s'est fait sortir du ciel au chapitre 12 de l'Apocalypse. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, c'était sa première descente. Ici, au chapitre 20, c'est la seconde descente. Il est éjecté la première fois des cieux sur terre, la deuxième fois de la terre à l'abîme où il est enfermé pendant 1000 ans. Donc il est saisi et il est enfermé. Ces chutes, ces deux chutes et défaites successives du diable sont uniquement dues à la victoire de Jésus sur la croix, qui bénéficie autant les cieux que les hommes. Il faut bien voir que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il est pour nous racheter, mais ce sacrifice a une valeur qui est beaucoup plus étendue parce que ça a été une bataille où il a vaincu Satan. Parce que Satan, il avait des droits et qui ne pouvait lui être ôté que dans une bataille, et cette bataille a eu lieu sur la croix, et Satan l'a perdu, il a été défait. Le mot Satan signifie adversaire, celui qui s'oppose. Il est utilisé plus de 50 fois dans les Écritures. Dans l'Apocalypse, Satan est désigné 12 fois comme dragon. Pourquoi dragon ? Le mot dragon souligne son aspect bestial, féroce, cruel. Il est aussi appelé serpent ancien, ce qui rappelle son rôle dans le jardin d'Éden, lors de la tentation d'Ève. Quant au mot diable, diabolos, il veut dire calomniateur. Un titre qui lui va comme un gant, qui va comme un gant à celui qui a déjà été appelé l'accusateur de nos frères dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Jésus a dit aux Juifs qu'ils voulaient le faire mourir parce qu'ils avaient le diable pour père, car depuis le commencement, c'est un meurtrier, il est menteur, lui le père du mensonge. Verset 3. L'ange précipita le dragon dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. J'aime beaucoup comme des fois dans les Écritures, on a des passages comme ça où il est dit « il doit être relâché, mais on ne vous dit pas pourquoi ». Et vous savez que soit dit en passant, nulle part dans les Écritures, on nous dit pourquoi il doit être relâché, encore que je vais vous dire pourquoi plus tard. L'ange souligne ici l'aspect sournois de Satan. Dès qu'il sera relâché, qu'est-ce qu'il va faire? Il recommencera immédiatement à égarer les peuples, ce qui est son occupation favorite. Mais pendant 1000 ans, Satan et ses hordes démoniaques seront totalement mis hors d'état de nuire. Dieu ne l'autorisera pas à influencer quiconque de quelque manière que ce soit pendant 1000 ans. Et c'est comme je l'ai déjà dit, ça va changer radicalement la dynamique du monde. Verset 4. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Là aussi, c'est intéressant. On ne nous dit pas qui c'est ces gens qui sont sur des trônes. Ah, vous allez dire, oh, purée, Jacques, il n'est pas bien clair dans ce qu'il dit, mais vous savez, Jean, pourquoi tu ne nous expliques pas qui sont ces gens? Non, il ne nous explique pas qui sont ces gens. Alors, je vais vous dire qui sont ces gens. Sur ces trônes sont assis les croyants qui partagent le règne du Christ. Alors, dans mon texte, j'ai 7 références bibliques. Je vous les passe. Ils sont chargés, qui sont ces gens? Ils sont chargés de faire appliquer la volonté politique du Messie pendant son règne et de s'assurer que sa justice soit rendue. Versets 4 et 5. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Voilà, Jean dit tout ça. Les gens dont il est question ici sont des martyrs. Étant donné que ces martyrs sont vivants, puisqu'on les voit dans le ciel, le mot traduit par « revinrent à la vie », si ces martyrs vivants qu'on voit dans le ciel revinrent à la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ils ressuscitent avec un nouveau corps. C'est une résurrection du corps, ce qui est d'ailleurs toujours ce que veut dire ce mot traduit par « revinrent à la vie » quand il est appliqué à quelqu'un qui est mort, comme par exemple dans Jean chapitre 11, Lazare. Cette résurrection est dite première. Pourquoi première? Parce qu'il y en a une deuxième. Cette résurrection est dite première en contraste avec la deuxième, dont il est question un peu plus loin. Et cette deuxième est suivie de ce que Jean appelle la seconde mort. Ces croyants martyrs ont été tués par l'Antichrist pendant les 7 ans de tribulation, en particulier la deuxième moitié. Ils participent donc à la première résurrection, qui est aussi appelée résurrection des justes dans le livre des Actes et par Luc, et résurrection pour la vie éternelle, c'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. Cette première résurrection concerne tous les croyants de tous les temps et seulement eux. Maintenant, la résurrection, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'un jour, je vais mourir. Et peut-être qu'un jour, vous allez mourir aussi. La résurrection dans les Écritures se fait par étapes. Il y a d'abord eu la résurrection de Jésus. Alors vous me direz, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jaïrus. Et il y a une troisième personne, il y a 3 personnes dans les Écritures, dans les Évangiles, que Jésus a ressuscité, mais c'est des fausses résurrections. Parce que ces gens qu'il a ressuscités, ils sont morts une deuxième fois. Pour vous dire, dans un sens, c'est pas de chance, hein, mourir 2 fois, mais c'est ce qui leur est arrivé. D'un autre côté, c'est pas mal d'être ressuscité, même si on doit mourir une seconde fois. Mais enfin, bon, donc la vraie résurrection, la première véritable résurrection, c'est celle de Jésus-Christ, c'est lui qui est les premiers fruits. Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité pour lui-même. Il est le Fils de Dieu, il est éternel. Il est ressuscité pour moi. Il est ressuscité pour vous. Il est ressuscité afin que nous participions à la première résurrection, la résurrection à la vie éternelle. Vous vous rendez compte? C'est notre problème. Notre problème fondamental, c'est la mort. Enfin, avec tout ce qui l'accompagne, la maladie, les accidents, et on ne se sent pas bien, on a mal au ventre, et bon... C'est ça notre problème. On est mortel, on est de chair. Et notre chair, à cause de notre péché, elle se détruit. On vieillit, on prend des cheveux blancs, on perd ses cheveux. Vous connaissez. Quand on est jeune, on se dit « je serai jamais vieux ». Un jour, je me suis dit « moi, je ne vais jamais mourir, je serai jamais vieux ». Et on y passe tous. On passe tous à la gamelle. Et notre espoir, notre espérance, et il n'y en a qu'une, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui est les premiers fruits. C'est pour ça que je dis que la résurrection se fait par étapes. C'est lui le premier. Et nous, on suit derrière. Mais dans un certain ordre, en effet, dans un certain ordre qui nous est révélé, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Après la résurrection de Jésus-Christ, ce sont les croyants du temps de l'Église. C'est nous. Le temps de l'Église a commencé dans le livre des Actes. Et ce temps se continue maintenant. Et il y a beaucoup de croyants, et ils sont tous morts, et c'est ceux-là qui vont ressusciter en premier lieu, au moment de l'enlèvement de l'Église. Ceux qui sont vivants sont transformés, ceux qui sont morts, hop, ils ressuscitent, avec un corps de gloire, un corps qui ne peut plus s'abîmer. Ça a lieu juste avant le début de la tribulation. Ensuite, on a les deux témoins venus du ciel. Oui, il y a deux témoins qui sont venus du ciel. On ne sait pas trop qui c'est, bien qu'on pense qu'il y en a un que c'est Élie, et peut-être que l'autre c'est Moïse, mais on n'en sait rien. Bref, ces deux témoins ressuscitent aussi, et c'est une véritable résurrection, parce qu'ils ressuscitent pour ne plus mourir. Ensuite, il y a ceux-là dont je viens de lire, ce troisième groupe, ce sont les martyrs de la tribulation qui, je disais, étaient vivants au ciel et ils reviennent à la vie, c'est parce que, ce qui veut dire qu'ils ont un nouveau corps, un corps de gloire, un corps de ressuscité. C'est donc le troisième groupe. Il y a d'abord Jésus, ensuite il y a les deux témoins. Ensuite, il y a nous, l'Église. Quatrièmement, donc, il y a les martyrs de la tribulation qui reçoivent un nouveau corps. Enfin, le dernier groupe, il y en a un cinquième, a participé à cette première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. Ceux qui sont appelés justes. Enfin, vous n'êtes certainement pas justes et moi non plus. Mais Dieu nous déclare justes. La résurrection des justes, le cinquième groupe de la résurrection des justes, ce sont les croyants, les fidèles de l'Ancien Testament. Ça y est, tout le monde est là. Alors, Jean n'en parle pas dans l'Apocalypse de ce groupe-là, mais plusieurs prophètes les mentionnent, Ésaïe, Ézéchiel et Daniel. J'ai écrit les références, mais je ne vous les donne pas. Verset 5. Les autres morts. Alors maintenant, nous avons donc cinq catégories. Hein, les premiers fruits, c'est Jésus. Et ensuite, il y a eu quatre groupes. Ces cinq participent à la première résurrection, qui est la résurrection des... la résurrection des Juifs. La première résurrection, la résurrection des justes. Voilà, ça y est, j'y suis. Bon. Les autres morts, verset 5, les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Il y a beaucoup d'autres morts que ceux que j'ai mentionnés. Ils ne participent pas à la première résurrection. Ils vont participer à la seconde résurrection. Alors ici, quand Jean dit « les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans », l'apôtre ouvre une parenthèse pour parler de la seconde résurrection qui aura lieu à la fin du règne de Jésus-Christ de 1000 ans. Ça fait rien si vous êtes perdu. Je sais très bien que quand j'allais vous donner ça, vous seriez perdu, mais peut-être comme ça, ça vous encouragera au moins. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse tourne en ce moment. Il est disponible sur un certain nombre de radios, peut-être pas ici, mais au moins sur l'Internet. Et au mois de décembre, il y aura ça, je vais moins vite. À ce moment-là, à la fin du millénium, tous les êtres humains de toutes les époques ressusciteront en vue du jugement du grand trône blanc qui sera suivi automatiquement de leur condamnation. Verset 6. Heureux et saints, dit l'apôtre Jean, ceux qui ont part à la première résurrection. Vous comprenez pourquoi? D'accord. La seconde mort, il écrit, n'a pas prise sur eux. La seconde mort est une terminologie, est une façon de dire le jugement éternel. C'est ici quand il dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. C'est une béatitude. Il y en a 7 dans le livre de l'Apocalypse. Celle-ci, c'est la 5e. Je dis ça en passant. Le mot pour résurrection qu'utilise l'apôtre Jean est utilisé 42 fois dans le Nouveau Testament et à une exception près où il a un sens moral, il fait toujours référence à la résurrection du corps, un corps de gloire. Plus loin, Jean définit la seconde mort, puisque à la fin des 1000 ans, vous avez tous les morts qui ne sont pas encore ressuscités, qui n'ont pas eu part à la première résurrection, ils font partie de la seconde résurrection. Jean définit cette seconde résurrection comme étant des gens qui vont participer à la seconde mort. Et il appelle la seconde mort les temps de feu. Verset 14. Ceux qui prennent part à la première résurrection sont bien heureux. La 5e béatitude, heureux ceux, parce qu'ils ne seront pas condamnés, bien qu'ils soient tout autant pécheurs et coupables que les autres qui ont part à la seconde résurrection à la fin des 1000 ans. C'est pas juste. On est tous dans le même bateau. On est tous coupables. Nous ne sommes pas moins coupables que ceux qui ont part à la seconde résurrection. Quelle est donc la différence? Ce n'est pas le degré de culpabilité qui fait la différence, mais c'est la foi. Jésus a dit, oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. C'est le genre de verset auquel on s'accroche de l'apôtre Jean, lui qui a écrit l'Apocalypse. Et l'apôtre Paul écrit, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, grâce au sacrifice de Jésus-Christ pour nous, auquel nous croyons, puisque nous sommes déclarés justes, nous serons à plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. Sauvés ou délivrés, c'est le même terme en grec. Verset 6, ceux qui participent à la première résurrection, ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Et c'est la 3e fois dans l'Apocalypse que les croyants sont appelés prêtres de Dieu. Ce titre veut dire, en particulier, qu'ils ont un accès direct auprès de Dieu. Ce privilège est déjà pour nous, pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Verset 6, toujours, ils régneront avec lui, avec Jésus-Christ, pendant les 1000 ans. C'est ici la 5e fois des 6 mentions du règne de 1000 ans dans le chapitre 20. Le chapitre 20 de l'Apocalypse mentionne 6 fois un règne de 1000 ans. Alors, comme il y a des événements précis qui ont lieu avant, qui ont lieu pendant et qui ont lieu après cette période de temps de 1000 ans, qui elle est bien ciblée, il me semble que ça veut dire que ces 1000 ans sont littéralement 1000 années. Bon, on peut chipoter et dire que c'est des années lunaires, parce que dans les Écritures, les années sont toujours lunaires, ce qui veut dire que ce sont des années de 360 jours. Vous n'avez qu'à faire le calcul, 1000 fois 5, ça fait combien d'années? Vous enlevez ça de 1000, bon, si vous voulez. Bon, on va souffler un peu, je vais me résumer. À la bataille d'Armageddon, Jésus-Christ revient sur terre et toutes les armées qui ont convergé sur la Palestine sont détruites. Puis l'Antichrist et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu. Satan et ses cohortes sont enchaînés et enfermés dans l'abîme. On est d'accord ? Avant que ne commence le règne de 1000 ans, les trônes du jugement sont présentés. Puis les martyrs de la tribulation, ainsi que les fidèles de l'Ancien Testament ressuscitent, afin que tous les croyants de tous les temps puissent participer au millénium. Cependant, et c'est une parenthèse que j'ouvre, tous ces individus qui ont participé à la première résurrection, dont nous qui faisons partie de l'Église, gardent leur identité dans les cieux et leur identification à un groupe particulier. On ne va pas tous être mélangés. C'est assez curieux, mais dans l'éternité, on va garder notre identité. Nous qui appartenons à l'Église, on aura notre identité d'appartenance à l'Église. Et les croyants de l'Ancien Testament, ils resteront des croyants de l'Ancien Testament. C'est assez curieux, mais on découvre dans l'Apocalypse que les groupes de croyants gardent leur identité. Comme on va garder notre identité individuelle, une fois qu'on sera dans les cieux, on ne va pas être des robots du tout. Hein. On sera un individu. Alors, que ce soit les Juifs fidèles de l'Ancien Testament, que je viens de dire, les païens prosélytes de l'Ancien Testament, qui ont fait confiance à l'Éternel, les croyants du temps de l'Église, vous et moi, ou les croyants de la tribulation, donc je viens de citer 4 groupes là, on va tous garder notre identité. Dieu, vous n'avez qu'à regarder la nature autour de vous. Vous voyez les couleurs. Bon, vous voyez les plantes, les animaux. Vous voyez combien les choses sont délicates et variées. Oh, pourquoi est-ce que dans les cieux, ce serait un amalgame? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime bien la diversité. Il nous l'a prouvé dans la création. C'est pareil. Nous sommes tous différents. Nous avons des individualités, des personnalités très différentes les uns des autres. Eh bien, nous allons garder quelque chose. La partie pécheresse disparaîtra. Les mauvais souvenirs disparaîtront, etc. Mais nous garderons quelque chose de notre création originelle. Les seuls êtres humains en chair et en os qui peupleront le millénium, les 1000 ans de règne de Jésus-Christ, sont ceux qui sont devenus croyants pendant la tribulation et qui ont survécu au massacre. Jésus-Christ commence son règne en souverain absolu et incontesté sur le monde dans sa totalité, et c'est le ciel sur la terre pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je l'ai déjà dit 2 fois, le diable et tous les démons qui étaient auparavant en liberté sont enfermés à double tour dans l'abîme. Ils ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires du royaume. Bon, c'est facile à comprendre. Deuxièmement, comme la malédiction qui frappait la nature a été ôtée, vous rappelez, j'ai dit en passant que le loup et l'agneau seront ensemble à brouter l'herbe des champs. Cette malédiction qui frappait la nature a été ôtée. Il n'y aura plus de moustiques. J'en ai tué un ce matin dans ma chambre. Les déserts sont des greniers à blé. Les récoltes sont énormes, il y a constamment un surplus de nourriture, autant pour les hommes que pour les animaux, qui sont tous végétariens. Troisièmement, les maladies ont quasiment disparu, pas complètement, mais quasiment. La durée de vie est extrêmement longue, plusieurs centaines d'années. On ne sait pas trop, on ne nous dit pas de quoi meurent les gens. On dit simplement que quelqu'un qui meurt quand il est centenaire, il est tout jeune. En apparence, tout est parfait dans le millénium. Et chacun va qu'à ses affaires dans la paix et le bonheur. D'accord ? C'est ça le millénium. Les premiers habitants du royaume font des enfants. D'accord ? Beaucoup d'enfants, puisque les conditions sont idéales. La population du globe croît de façon exponentielle. Oui, mais ces gens, vous vous rappelez, on ne parle pas de gens ressuscités ici, on parle de gens en chair et en os, comme vous et moi, qui sont entrés dans le millénium. Ils sont devenus croyants pendant la tribulation. Ils n'ont pas participé à l'enlèvement de l'Église, ils sont devenus croyants après. Pour devenir croyant, il y avait les deux témoins et les 144 000. Mais ça, c'est avant, là, j'ai commencé dans le chapitre 19. Oui, mais il y a les deux témoins. Il y a les 144 000. Mais c'est-à-dire que les Écritures ne nous disent pas comment ça se fait, mais les Écritures nous enseignent qu'il y aura des multitudes qui vont se convertir à Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de blancs dans les Écritures. C'est vrai que j'essaye de remplir quelques blancs en passant, mais il y a beaucoup de blancs. Donc, au début du millénium, l'Église a disparu. Tous ceux qui sont convertis pendant la tribulation entrent dans le millénium, mais ce sont des gens comme vous et moi, mortels. Cependant, comme la malédiction a été ôtée, ils vont vivre longtemps. Alors, ils font des enfants, beaucoup d'enfants, parce que les conditions sont parfaites. Oui, mais ces gens sont comme vous et moi. Ils ont encore une nature de péché avec eux, en eux. La nature dépravée foncièrement mauvaise n'est pas affecté du tout par les conditions paradisiaques du royaume. Important ça. Voilà pourquoi, vous allez voir, pourquoi un ange, à la fin des mille ans, va libérer Satan. Mais il dit simplement, les Écritures disent simplement, il faut qu'il en soit ainsi, sans nous dire pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est ici. Ça peut nous surprendre à première vue. Ces gens sont dans des conditions idéales, oui, mais ils ont la nature de péché, toujours en eux. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient encore bien mieux que ces gens-là, parce qu'eux n'avaient pas la nature de péché. Et pourtant, qu'est-ce qui est arrivé ? L'environnement d'Adam et Ève était d'une perfection absolue, bien mieux que le millénium. Parce qu'ils n'avaient pas la nature de péché en eux. Et eux, qui n'avaient pas la tendance fâcheuse que moi j'ai à mal faire, qui est ancrée dans mon cœur. Et pourtant, nos premiers parents n'ont pas hésité à se révolter contre le Créateur en choisissant délibérément de lui désobéir. Ça n'a aucun sens. On ne comprend pas. Alors, bien sûr, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais fait comme eux. Depuis qu'il y a eu cet événement dans le jardin d'Éden, chaque être humain qui vient au monde est un pécheur invétéré, coupable et condamné, qui a besoin d'accepter la grâce de Dieu et de faire confiance à Jésus pour avoir la vie éternelle. Oui, mais pendant le millénium, pendant les mille ans de règne de Jésus-Christ, beaucoup de gens vont refuser de courber les chines devant le roi des rois et voudront se rebeller contre lui. Mais comme la justice du royaume sera expéditive, ce ne sera pas comme la justice des hommes aujourd'hui, et qu'ils n'auront pas de dirigeants, de leaders, les insoumis vont marcher droit. Oui, mais en apparence seulement, et en serrant les dents. Pendant ce temps dans sa prison, dans l'abîme, je vous l'ai dit ça, dans l'abîme, Satan commence à trouver le temps long. Il y a un ange qui est descendu, qui l'a enfermé, il n'a pas apprécié. Il commence à trouver le temps long. Oui, mais qu'il prenne son mal en patience, car il va enfin être libéré et pouvoir reprendre ses activités ténébreuses. Versets 7 et 8. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables, c'est marqué. D'où ils sortent ces gens? Ce sont les enfants, des enfants, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Vous vous rendez compte? Bon, en 1000 ans, presque 1000 ans, 1000 ans, à peu près 1000 ans, dans des conditions parfaites, on peut être sûr que la population de la terre doit compter, disons, à la louche, au pif, 100 milliards d'individus. On est 7 milliards maintenant. Ok. Sur 100 milliards d'individus, dans cette marée humaine, il est quasi certain que plusieurs milliards, estimant le règne du roi des rois trop despotique, attendent la possibilité et le bon moment pour se révolter. Dieu va leur en fournir l'occasion. Voilà pourquoi Satan est relâché. Voilà pourquoi il doit être relâché. Mais ce n'est pas tout. Dès que l'abîme est ouvert et que Satan et ses cohortes sont invités à en sortir, il n'hésite pas une seconde et s'empresse de se mettre à l'œuvre. En 2 temps 3 mouvements, le diable arrive à récupérer sous sa houlette une bonne partie des gens nés des croyants qui, vous vous rappelez ce que j'ai dit, eux seuls avaient été autorisés à entrer dans le royaume. Il se met à la tête de ceux qui pourtant ont vécu toute leur vie dans un milieu paradisiaque. Hein, faut bien garder ça à l'esprit. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher au Seigneur? Rien. Et il les conduit, et il conduit une insurrection contre le Seigneur. Cette tentative de coup d'État par ces multitudes, alors là c'est important, voilà pourquoi les Écritures disent il doit être relâché. Voilà pourquoi. Cette tentative de coup d'État par ces multitudes prouvera d'une façon décisive que le cœur de l'homme est foncièrement et tellement méchant qu'il n'a nul besoin de Satan pour se dresser contre Dieu. Voilà, Dieu va nous prouver, va prouver à l'humanité que leur cœur est tellement méchant qu'ils ne peuvent pas dire « c'est la faute de Satan ». Ou c'est la faute de celui-là, ou c'est la faute de quiconque. On n'a besoin de personne pour faire le mal. On a tout en nous. Le texte ne dit pas comment Satan va s'y prendre pour créer son armée, mais ce qui compte est que les démons arrivent à rassembler tous ceux qui sont mécontents du régime du Seigneur. Il en vient des 4 points cardinaux. J'en donne à cette multitude le nom symbolique de Gog et Magog. Dans les Écritures, Gog sert à décrire un ennemi du peuple de Dieu. C'est le nom que le prophète Ézéchiel utilise pour appeler l'Antichrist. Ici, Gog est le nom du chef politique et militaire de la rébellion et Magog désigne ses troupes. Verset 9. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Donc la colonie de fidèles se compose de gens en chair et en os, comme vous et moi, d'une part, et deuxièmement, des saints ressuscités et glorifiés. Mais seuls les premiers sont menacés, évidemment. Mais le combat se termine avant d'avoir commencé. Tout comme la campagne d'Armageddon, 1000 ans plus tôt, L'affrontement des forces en présence tourne court. Dieu intervient. Le feu du jugement détruit instantanément et totalement les armées venues attaquer la capitale du royaume. Une fois cette rébellion matée, vient la fin des fins et le début de l'éternité avec la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y a beaucoup de choses dans le livre de l'Apocalypse, mais comme on ne le lit pas souvent, d'abord parce qu'il nous fait peur et parce qu'il y a quand même quelques passages compliqués, je suis là pour ça. Verset 10. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète qui, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Satan est maintenant jugé une fois pour toutes. C'est fini, sa longue carrière de séducteur, de trompeur, de meurtrier et d'agent du mal est désormais définitivement terminée. Alors que l'abîme, j'en ai parlé, peut être ouvert ou fermé, il n'en est pas de même de l'étang de feu et de soufre, un lieu maudit et abominable. Le diable va rejoindre ses deux acolytes, la bête, la première bête qui est l'Antichrist, et le faux prophète qui est appelé la seconde bête, qui ont déjà purgé une peine de 1000 ans, ça fait rien si vous en rappelez pas, mais c'est comme s'ils n'avaient pas encore commencé, parce que le texte dit que leur tourment durera pendant l'éternité. En fait, l'expression littéralement « au siècle des siècles » apparaît, « au siècle des siècles » apparaît 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Au début, quand Jésus dit à Jean « j'ai été mort et voici je suis vivant », au siècle des siècles, et aussi 4 fois dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que Dieu vit au siècle des siècles et que le règne du Christ durera au siècle des siècles. En dépit des spéculations insensées des hommes, il y a bel et bien un Dieu créateur qui est aussi le juge suprême de l'univers. Comme sa nature est d'être juste, toutes les décisions qu'il prend le sont également, ce qui paraîtra au jugement dernier. Ceux qui meurent ici-bas sans avoir été au bénéfice de la grâce de Dieu en Jésus-Christ seront confrontés à la justice de Dieu et son jugement dans l'au-delà. Bon, je vous apprends rien. Verset 11, ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Quand les gens m'ont vu arriver aujourd'hui, ils avaient un grand sourire, mais moi je me disais, ils ne savent pas ce qui les attend. Dans les Écritures, il est question de plusieurs jugements. Le moins douloureux est le tribunal de Jésus-Christ, devant lequel tous ceux qui sont sauvés doivent se présenter, vous et moi. C'est à ce moment-là que les croyants qui ont été fidèles au Seigneur sont récompensés pour leur dévouement. Tous ceux qui iront à ce rendez-vous incontournable sont dits bienheureux, la 5e béatitude, car ils ont eu part à la première résurrection. Un petit résumé. Il existe un autre jugement incontournable, lui aussi, qui est réservé à ceux qui ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. Je l'ai déjà dit. Il aura lieu à la fin du règne de 1000 ans de Jésus-Christ, je l'ai déjà dit, ce qui correspond à la fin aussi de l'histoire humaine et au début de l'éternité avec une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Connu sous le nom de jugement dernier, cette comparution est toujours de très mauvais augure car automatiquement suivie de la sentence de la seconde mort. J'ai déjà dit, je me résume. Pour pouvoir se présenter en personne à la barre des accusés, on parle donc des gens qui vont ressusciter, qui s'appelle la deuxième résurrection. Pour pouvoir se présenter en personne à la barre des accusés, le condamné ressuscite et la preuve de sa culpabilité est présentée. Malheureusement, aucun jury n'est présent. Aucune délibération n'est prévue. La défense n'est pas assurée, il n'y a pas d'avocat. Le verdict est sans appel. Tous les accusés sont déclarés coupables et punis pour l'éternité sans jamais aucune possibilité de remise en liberté. L'apôtre Jean, qui décrit ce qu'il voit, utilise un langage simple, mais rendu brutal par l'absence de détails. Il faut dire que la scène est tellement terrifiante qu'il n'y a pas besoin d'y ajouter des expressions frappantes. Jean ne précise pas qui est assis sur ce trône, mais il s'agit de Jésus-Christ. Car selon plusieurs passages des Écritures, c'est lui qui jugera le monde. J'ai toute une flopée de références. Comme chacun sait, pour ne pas se retrouver devant le grand trône blanc, ce jugement dont il est question, il faut accepter d'être purifié par le sang de Jésus afin de recevoir le pardon de ses péchés. Verset 11. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, loin de la présence du grand trône blanc. Ils disparurent sans laisser de traces. Bon, cette action divine, assez curieusement, est l'inverse de celle qui a créé l'univers. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre et le ciel du néant, ex nihilo, c'est du latin. Par cette même parole, il les y renvoie et elles disparaissent. Pareil qu'il existe l'antimatière, peu importe. À la fin du jour du Seigneur, c'est-à-dire qui s'étale du début, qui dure très longtemps, l'univers se désagrégera et disparaîtra dans un fracas terrifiant, ce qui est décrit dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3. Comme le présent univers, celui où nous sommes, les astres et tout le bazar, a été souillé par le péché, puisque Satan a accès aux cieux en ce moment. Il faut qu'il disparaisse complètement, car aucune trace d'impureté ne peut entrer dans l'état éternel parfait. Verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. » Alors Jean se répète, c'est encore une fois, le jugement du grand trône blanc, qu'on appelle généralement le jugement dernier. Ceux qui se trouvent à la barre des accusés forment la fratrie des damnés. Ils sont réunis pour la première et la dernière fois. Ce sont des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes de tous les temps et de tous les groupes ethniques, les grands de ce monde. Ceux qui ont fait l'histoire seront là, ainsi que les grands criminels et les petits vicieux. Les mesquins, les commères et les moins que rien qui n'ont fait que passer. Ils ont tous été ressuscités pour la honte et l'horreur éternelle, écrit le prophète Daniel. Tout ça est horrible. Cependant, la bonne nouvelle est que tous les êtres humains qui ont fait confiance à l'Éternel ou en Jésus ont déjà ressuscité il y a au moins 1000 ans et ont déjà reçu leur récompense. Depuis, ils règnent avec le Seigneur et ne sont donc pas concernés par le jugement du grand trône blanc. C'est aussi l'apôtre Jean qui écrit « Celui qui met sa confiance au Fils de Dieu n'est pas condamné ». Oh là là. Ouais, mais les autres fois que je suis venu, il y a toujours quelqu'un qui me dit il faut que ce soit plus long. Verset 12, des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. C'est aussi cette scène qu'a vue le prophète Daniel qui écrit « La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres ». C'est intéressant comme il y a beaucoup de passages des Écritures qui se recoupent. Donc, les criminels, les grands, les petits sont tous là. Judas, Hitler, Staline et les millions d'autres, certains ont déjà purgé une peine. Cependant, beaucoup ont réussi à passer à travers les mailles du filet de la justice humaine. Mais devant le grand trône blanc, il n'y a pas d'échappatoire possible. Quant aux multitudes de bien-pensants qu'on rencontre dans la rue aujourd'hui, qui désirent être jugés selon leurs actions, ils vont obtenir satisfaction. Quand on témoigne à des gens, ils disent « Ouais, moi, je suis meilleur que lui. Moi, j'ai pas peur de passer devant Dieu. Hein, moi, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. » Ils auront gain de cause. Ils vont obtenir satisfaction. Il est intéressant de remarquer qu'une fois qu'on arrive dans l'au-delà, tout le monde, les jugements se font bel et bien en fonction des œuvres. Aha! C'est sur cette base que les croyants reçoivent ou pas des récompenses devant le tribunal de Jésus-Christ. Et c'est sur cette base-là, des œuvres, que les autres êtres humains sont condamnés. D'ailleurs, quand Jésus a prophétisé son retour pour régner, dans Matthieu 16, il dit « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Les œuvres des croyants ont été passées au peigne fin au moment de l'enlèvement de l'Église. Vous, là, vous, au moment de l'enlèvement de l'Église, si vous êtes déjà mort, vous allez ressusciter. Si vous êtes vivant, vous allez être transformé. Et vous savez ce qui vous attend ? Vous allez être jugé selon vos œuvres. Ce n'est pas le jugement pour savoir si vous êtes sauvé ou perdu, ça c'est déjà réglé. Vous êtes sauvé, vous allez entrer dans l'éternité, mais vous allez être jugé selon vos œuvres, et moi aussi, pour savoir quel sera mon statut dans les cieux. J'aurai une petite maison étriquée ou une grande villa. Ça va se faire selon les œuvres. Attention. Attention. Donc, c'est sur cette base que les croyants reçoivent ou pas des récompenses. Les œuvres des croyants ont été passées au peigne fin au moment de l'enlèvement de l'Église, et la mise en examen des fidèles de l'Ancien Testament et de la tribulation, dont j'ai déjà parlé, a eu lieu juste avant le début de la règne des mille ans. Eux, c'est pareil, hein. Tout le monde passe à la casserole. Tous les autres êtres humains qui donc n'ont pas été graciés comme nous sont maintenant devant le grand trône blanc et c'est là qu'ils reçoivent une sentence qu'ils devront purger éternellement. Et cette sentence est fonction du bien ou du mal qu'ils ont fait sur terre. Donc il y a différents degrés de châtiment pour les perdus. L'enfer sera un lieu de jugement pour tous les condamnés, mais avec des degrés de châtiment variables. Jean a vu qu'on a ouvert des livres au pluriel contenant les actions des hommes perdus, mais aussi un livre au singulier, le livre de vie. Il est plusieurs fois question de ce livre dans l'Apocalypse et il remplit le même rôle que le registre des citoyens que tenaient les villes de l'Antiquité. Ce livre de vie est le registre des élus et il contient les noms de tous les citoyens du ciel. Aucun de ceux qui se tiennent devant le grand trône blanc, devant le grand trône blanc, n'a son nom dans le livre de vie. Je vois que les gens commencent à partir. Verset 13. La mer avait rendu ses naufragés. Là, je vais plus être invité. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Là, vous allez savoir plus l'Apocalypse que la majorité des évangéliques de France. Bon, chacun, conformément à ses actes, dans le verset 13. Dans l'Ancien Testament, le mot « Sheol », traduit par « séjour des morts », apparaît 67 fois. Ça fait rien, 70, 100 fois, mais c'est 67. Il désigne le lieu où vont les morts, qu'ils soient justes ou pas justes. Dans le Nouveau Testament, le séjour des morts revient, le mot, l'expression séjour des morts revient 10 fois, et désigne toujours un lieu de châtiment, une sorte de pénitencier où vont les âmes de ceux qui meurent sans avoir reçu la vie éternelle. Bon, dans ce verset, autant la mort que la mer sont personnifiés et décrits comme des monstres voraces, mais qui sont forcés de les dégurgiter au moment de la deuxième résurrection. Vous êtes perdus entre la première et la deuxième, mais ça fait rien. Une fois ressuscités, les corps sont réunis à leur âme, qui se trouve dans le séjour des morts, et ces personnes reconstituées sont traduites en justice, condamnées et jetées dans les temps de feu. Même si vous vous souvenez de 10% de ce que je vous dis aujourd'hui, je serai content. Versets 14 et 15, « La mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. C'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. » Encore une fois, la mort et le séjour des morts sont personnifiés, jetés dans l'oubliette éternelle, le trou noir de l'éternité. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot le plus courant pour désigner le jugement éternel est géhenne ou géhenne, géhenne, il y a un accent. Ce mot tire son nom d'une expression hébraïque, la vallée de Hinnom. C'est un endroit qui se trouvait au sud-ouest de Jérusalem et à une certaine époque de leur histoire, les Israélites idolâtres offraient leurs enfants en sacrifice aux faux dieux, Baal et surtout Moloch. Au 1er siècle, la vallée de Hinnom servait de décharge publique pour la ville de Jérusalem. On y jetait même les corps des criminels exécutés. Ce lieu était plein de vermine, infesté de vers, et les ordures y brûlaient jour et nuit. Voilà pourquoi c'est le lieu. Il s'en dégageait une fumée âcre et nauséabonde, j'ai écrit. Cette vallée devint la carte postale du séjour éternel des condamnés, une image que Jésus a souvent utilisée. C'est Jésus qui a le plus parlé de l'enfer de tous les personnages bibliques. C'est quand même curieux. Bref, la doctrine de la condamnation éternelle, dont j'ai parlé aujourd'hui amplement, a toujours été un problème affligeant pour les croyants, vous et moi, parce que c'est terrible. Personne dans ma famille n'est croyant. Sévère et inexorable, selon les apôtres et surtout Jésus, il n'existe que deux destinées possibles pour les âmes des hommes, soit être avec le Seigneur dans le royaume des cieux, soit être séparé de Dieu dans les temps de feu. Cette vérité au timbre sinistre doit vous motiver, vous et moi, à faire connaître la bonne nouvelle du pardon des péchés en Jésus à tous ceux qu'il rencontre, même s'il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre, et quel que soit le coût et les sacrifices. Le but de la vie sur terre n'est pas de faire une carrière, d'avoir du bon temps, un maximum de vacances, c'est très français ça, et de s'assurer une retraite dorée, c'est aussi très français, mais de choisir où on va passer l'éternité. Malheureusement, il est facile de se laisser gagner par l'insouciance ou de se laisser amuser par les divertissements et les gâteries narcissiques que nous offre notre culture dépravée. L'heure est grave et le temps presse. C'est maintenant qu'il faut se donner entièrement à la cause du Christ, informer nos contemporains qui sont en train de glisser vers le trou noir et les inviter à placer leur confiance en Jésus avant que la dame à la faux ne vienne les chercher, car alors il est trop tard. Nous sommes tous des pécheurs maudits, mais il existe un moyen, un seul, d'échapper à la condamnation, reconnaître sa culpabilité devant Dieu et accepter le sacrifice de Jésus pour le pardon de ses péchés. C'est ce qu'il nous faut annoncer à tout un chacun qu'on rencontre. L'Apocalypse est le livre qui nous donne le plus de renseignements, j'ai presque fini, sur l'éternité à venir, ce qui est déjà une très bonne raison de l'étudier. Ça passe en ce moment. Publicité. Il est normal qu'un croyant s'interroge sur l'au-delà, surtout qu'il va y passer beaucoup de temps. L'éternité, c'est long. Même moi, quand je dois aller dans un endroit nouveau, j'aime bien où je mets les pieds. Bon, alors là qu'il s'agit de partir dans l'au-delà avec un aller simple, pour un séjour sans fin, j'aimerais bien, si possible, avoir quelques points de repère et savoir où je vais me retrouver. Peut-être que vous êtes comme moi. En tout cas, Dieu le sait pour cette raison, par l'intermédiaire de Jean. Il satisfait en partie notre curiosité dans le livre de l'Apocalypse en nous donnant quelques informations sur la nouvelle Jérusalem dont je ne vais pas parler, qui est après, plus loin, et le lieu, qui est le lieu de félicité et de repos éternel des rachetés dans le royaume des cieux. Dans le chapitre suivant que je ne vais pas aborder, grand sourire, on lit « Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je renouvelle toutes choses ». Certes, l'état éternel peut nous paraître très lointain, mais en réalité, il est tout proche. Une fois sa vie terminée, le croyant est instantanément dans la présence du Seigneur et sa vie est évaluée. Et j'en ai bien peur en long, en large et en travers. Ah oui, j'oubliais presque. Je serai absolument seul à la barre. Tous ceux qui, à mes funérailles, auront dit le plus grand bien de moi, que j'étais un type formidable, le meilleur, le plus beau et le plus fort, ne seront pas admis à l'audience pour répéter les mêmes bobards. La vie, c'est du sérieux, ce que l'apôtre Jean comprenait quand, dans sa seconde épître, il avertit ses lecteurs en disant « Prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. » J'en ai déjà parlé des récompenses. Une fois le règlement de compte devant le tribunal de Christ terminé, le croyant s'installe dans la Nouvelle Jérusalem, la résidence éternelle des croyants, des rachetés. Là, il attend son nouveau corps, la fin de ce monde et le début de l'autre. Cependant, il ne trouve pas le temps long. Alors ça nous concerne tous, au cas où nous mourrons avant l'enlèvement de l'Église. Il ne trouve pas le temps long parce qu'il est dans un environnement parfait et dans une communion sans nuage avec Dieu. Et il retrouve les croyants qu'il a connus et qui l'ont précédé. Devant lui s'étend un avenir glorieux sans aucune ombre. Quelle différence avec ce que nous vivons ici-bas. Ça y est, j'ai fini. Il y a deux mois est sorti un livre en anglais qui s'appelle « Heaven is for real », qui relate l'expérience d'un enfant de 4 ans qui pendant une opération grave, est allé dans les cieux. Ce livre est fascinant. Il est en ce moment traduit en français au Canada. Malheureusement, au Canada, des fois, le français... Mais je vous conseille de le lire s'il apparaît un jour. Je vais essayer de voir avec ceux avec qui je travaille si on pourrait pas offrir gratuitement ce livre en français quand il sortira. À chacun de réfléchir en son âme et conscience après avoir lu ce livre, mais il est fabuleux, il vaut le détour, ça vaut le coup de le lire. Il n'existe qu'en anglais pour le moment. Je vais en laisser un à mes hôtes. Qui lisent bien l'anglais, je vais leur en donner un. Voilà, j'ai fini. Vous avez été mes otages. Le mot n'est pas faible. Je ne veux pas regarder l'heure. Mais merci bien. Ça a été un plaisir pour moi de venir. Je pense que vous ne me verrez plus.